Donc voilà le débat sur la les logiciels libres, la maîtrise par les utilisateurs rejoint totalement le débat de la maîtrise par les paysans de leur agriculture, par les paysans de leur travail. Je crois qu'on est vraiment dans des luttes qui sont contre les mêmes firmes multinationales qui tentent de s'approprier le vivant, de s'approprier l'ensemble de la vie et au travers de ça, d'accroître leurs profits. Voilà.
Donc voilà, ceci c'est un maïs population qui vient d'Amérique du Sud, des Andes. Un maïs qui est aussi issu de la biodiversité cultivée, de générations et de générations de paysans qui ont ressemé et sélectionné au long des années. Voilà. Donc les OGM mettent à mal cette biodiversité cultivée. Donc c'est un peu le symbole de la lutte des faucheurs. Et autre symbole, la bière des faucheurs, qui symbolise aussi la solidarité envers les faucheurs, solidarité nécessaire pour que ce mouvement continue et pour que la lutte contre les OGM continue. Donc l'alcool est à consommer avec modération, mais la bière est à acheter sans modération.
Moi, je vais dire un petit mot au nom de l'April, assez rapidement. Je me suis intéressée à comment ça se passait, en fait, quand il y avait une enclosure. Donc, selon Wikipédia, notre fameuse encyclopédie libre, la réalisation d'une enclosure passe par les étapes suivantes. Tout d'abord, l'appropriation par les propriétaires d'espaces préalablement dévolus à l'usage collectif. Ensuite, la substitution de l'ancien système ouvert par des champs enclos par des haies. Et enfin, l'établissement de vastes domaines loués à des fermiers pourvus de moyens financiers. L'enclosure s'accompagne généralement de l'utilisation de nouvelles techniques, de nouvelles cultures. Et elle a souvent été présentée comme le moyen permettant de passer d'une agriculture peu productive à une agriculture performante de type capitaliste, avec pour conséquence notamment de supprimer les possibilités de pacage et de glane à de multiples petits fermiers ou habitants qui profitaient des espaces ouverts. Donc c'est le même mécanisme auquel nous sommes soumis dans le logiciel. À l'origine, les chercheurs en informatique partageaient leur savoir, mais progressivement, les industriels ont limité la diffusion de ce savoir en utilisant les mécanismes de la propriété intellectuelle. Le logiciel propriétaire, et tout particulièrement lorsqu'il fait l'objet de brevets, privatise le savoir et les bases communes sur lesquelles de nouveaux logiciels sont créés. Les brevets logiciels permettent aux acteurs dominants de déterminer quels seront leurs concurrents sur le marché, fermant ainsi le marché aux PME et aux indépendants. Mais au-delà du marché, c'est le public dans son ensemble qu'il prive de l'accès au savoir. Nous assistons à la même dérive sur le vivant, et plus généralement dans le domaine informationnel. Donc, petit à petit, le principe selon lequel les idées sont de libre parcours s'efface sous l'influence d'intérêts économiques puissants qui amènent les États à consacrer la propriété intellectuelle, c'est un drôle de terme, comme la nouvelle forme de capitalisme permettant de produire des rentes. Justement, c'est un étrange terme. Donc, y a quelque chose de... c'est comme un oxymore. Un oxymoron.
Non, c'est pire. C'est encore pire.
Donc le logiciel libre permet, lui, au contraire, grâce à ses licences, et merci à Richard Stallman et à Eben Moglen, de créer un bien commun informationnel auquel chacun pourra contribuer, mais nul ne pourra retrancher. Les savoirs sont ainsi partagés et ils donnent lieu à une économie de services florissante, ce qui devrait satisfaire les exigences économiques contemporaines. En Europe, jusqu'ici, et grâce à la très forte mobilisation de la société civile, notamment la FFI et les associations du logiciel libre, mais aussi des petits acteurs du logiciel, que ce soit du logiciel libre ou du logiciel propriétaire, nous avons réussi à repousser la tentative de légalisation des brevets logiciels. Au-delà du logiciel, c'est l'ensemble du domaine informationnel qu'il faut protéger contre ces dérives, car dans la société de l'information, il n'est point de liberté si l'information elle-même n'est pas libre. L'obtention de cette protection ne peut être que le fruit de la mobilisation de tous ceux qui en sont conscients. Sensibilisez vos proches à ces questions, parlez-en à vos élus, soutenez les organisations qui œuvrent pour que l'information reste libre. L'April, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, association de promotion et de défense du logiciel libre, défend depuis 11 ans le partage des savoirs. Elle est heureuse aujourd'hui de prendre part à cet événement et remercier Richard Stallman et Jean-Pierre Berland de nous faire profiter de leur expertise et de contribuer ainsi à l'action de tous ceux qui souhaitent que les idées demeurent de libre parcours. Et j'ai l'honneur d'offrir à M. Berland un t-shirt de l'April avec les quatre menaces du logiciel libre. Donc voilà, je vous laisse le voir. Donc les quatre menaces, ce sont les DRM, les brevets logiciels, l'informatique de confiance et la vente liée, qui sont des obstacles à l'exercice des libertés.
Allô. Bon, je vais essayer de parler le moins possible, puisque beaucoup de choses ont été dites avant. Je suis aussi un militant de l'April dès la première heure, et je suis aussi le papa de Jérémy, de Bellinux. Et quand Jérémy a dit qu'il faudrait qu'on organise une conférence après qu'il y ait eu une rencontre hasardeuse, mais bien heureuse, entre les principaux dirigeants des associations du logiciel libre en France au ministère de la crise du logement avec les faucheurs OGM, moi, dans le même temps, je disais à Jérémy, il y a quelque chose de dramatique qui est en train de se passer. Au téléphone, on se parlait. Le 17 octobre, le Sénat a voté une loi liberticide qui interdit définitivement les semences de ferme. Or que moi, qui étais militant du Libre, dans mes listes du Libre, je voyais uniquement la collusion qu'il y avait entre Madame Fourtout, qui était la femme de Vivendi Universal, qui avait pondu la directive européenne qu'on a traduite dans notre droit national, et des effets malfaisants depuis la loi d'Absi, que renforçait cette loi dite de lutte contre la contrefaçon. Et je me suis aperçu que le débat au Sénat avait comme principal enjeu le vivant, c'est-à-dire que les semences de ferme ne sont plus légales en France. Et ce qui m'avait le plus surpris, je vais juste finir là-dessus, c'est que le rapporteur de la loi s'était moqué d'un sénateur qui disait « mais on ne va pas breveter non plus les animaux, on n'en est pas au clonage », et 15 jours après, on a appris que l'Agence alimentaire et des médicaments autorisait aux États-Unis la vente et la consommation d'animaux clonés, donc on est passé du brevetage des semences au brevet du clonage. Et je pense que donc là, c'est très grave parce qu'on va droit dans le mur et il est nécessaire, plus que nécessaire, voilà pourquoi je suis ravi et heureux de cette rencontre entre Jean-Pierre Berland et Richard Stallman. Il est plus que nécessaire que les acteurs qui ont les mêmes ennemis, qui sont enclos par des mêmes lois, puissent se rencontrer, puissent s'échanger, puissent parler de leur expérience et puissent bâtir ensemble du sens pour que l'humanité entière puisse survivre.
Bonsoir. Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Trois mots presque oubliés en la France actuelle. Liberté, égalité, fraternité. Liberté parce que l'utilisateur est libre de faire ce qu'il veut avec le programme. Égalité parce que tous les utilisateurs disposent des mêmes libertés. Et fraternité parce que chaque utilisateur est permis de partager le programme avec les autres, avec tout le monde. Donc, la philosophie du mouvement de logiciels libres est basé sur deux buts. La liberté de chacun et la solidarité sociale, c'est-à-dire la fraternité et tous en égalité. On peut comparer cette philosophie avec l'autre philosophie d'open source ou source ouverte ou quoi que ce soit, qui ne mentionne jamais des droits de l'homme, qui ne parle pas de liberté, qui ne parle pas de la fraternité, qui n'essaie jamais de critiquer un problème social. Le logiciel privateur, c'est-à-dire le logiciel pas libre, le logiciel qui prive l'utilisateur de sa liberté, est un problème social. Il ne doit pas exister. Mais le qui qui promeuvent l'open source ne dit pas qu'il y a un problème. Il propose une méthode de développement de logiciels et c'est tout. Si vous voulez développer un programme, les idées d'open source sont utiles. Ils méritent votre attention. Mais les idées d'open source n'essaient pas d'enfronter. Par les développeurs des programmes. Mais comment voit-on cette domination et comment est-ce que c'est injuste? L'interdiction de la coopération, du partage, est directement injuste parce que l'aide aux voisins est la base de la société. Interdire le partage et attaquer la société à sa base. Donc, complètement injuste et insupportable. Mais l'autre problème, c'est qu'un programme privateur normalement maintient impuissant ses utilisateurs. Parce que l'utilisateur ne possède pas le code source, il ne peut rien changer. Il ne peut pas même investiguer indépendamment ce que fait vraiment ce programme. Et beaucoup de programmes privateurs contiennent des fonctionnalités malveillantes de surveiller l'utilisateur, restreindre l'utilisateur, même des arrière-portes pour attaquer l'utilisateur. Comme par exemple, Windows Vista a été fait pour permettre Microsoft à attaquer dans n'importe quel moment l'utilisateur. Microsoft peut faire n'importe quel changement dans le logiciel. Mac OS 10 fait la même chose. Le iPhone fait la même chose. Et j'ai lu que Apple a saboté les iPhones qui avaient été modifiés par leurs utilisateurs. Donc, c'est maintenant, ils font semblant de vouloir nous aider, corrigeant des problèmes, mais qu'est-ce que ça veut dire un problème selon eux? Notre liberté, c'est le problème. Et nous avons la manière de nous frapper très fort en cas de maintenir notre liberté. Et la solution est de reconnaître que le logiciel doit être libre et que n'importe quel programme privateur est une menace sociale. Il faut décider de le rechasser, le rejeter et ne jamais accepter des programmes privateurs pour vivre en liberté. Je veux expliquer l'escroquerie sémantique dans l'expression propriété intellectuelle. Cette expression porte une préjugé assez évident parce que dans le mot propriété. Si la domination d'un développeur de logiciel ou de quelqu'un d'autre sur vous est appelée sa propriété, c'est-à-dire qu'il mérite ce pouvoir et que moralement vous devez l'accepter, vous devez être soumis et vous n'avez rien à faire. Donc, l'application de ce mot propriété au pouvoir injuste sur le public, évidemment, fait de la propagande. Mais il y a quelque chose d'encore pire dans cette expression. Moins évident, parce que le préjugé est évident. Pas difficile à voir. Mais la confusion est moins évidente, parce qu'il faut connaître bien beaucoup de champs de la loi pour reconnaître la confusion que cette expression sème dans tous ces champs. Parce que cette expression s'applique à plusieurs lois qui n'ont rien à voir, n'ont rien en commun, toutes ces lois. Parfois, il y en a deux qui ont quelque peu en commun. Mais toutes ces lois, toutes les lois qui sont appelées les lois de propriété intellectuelle, n'ont rien en commun. Mais l'utilisation de cette expression mène les gens à penser aux questions de la propriété intellectuelle. Et ils se sont déjà trompés. Supposer que c'est une question cohérente est déjà se tromper. Parce que la question de la loi du droit d'auteur, c'est une question. Et la loi des brevets est complètement différente. Donc il faut considérer l'une et l'autre séparément. Si tu penses que ces deux lois sont un sujet, impossible de les comprendre. Et il y en a beaucoup d'autres lois qui sont souvent appelées lois de la propriété intellectuelle. Donc il faut rejeter cette expression et ne pas la remplacer avec une autre. Parce qu'il faut ne pas confondre toutes ces lois. Et quand les avocats disent c'est une question de notre propriété intellectuelle, ça veut dire qu'ils ne veulent pas vous dire quelle loi ils vous accusent d'avoir enfreint, parce qu'ils cachent le nom de cette loi sous la généralisation de propriété intellectuelle. Comment vous défendre au tribunal sans savoir sous quelle loi vous avez été accusé? Mais les avocats des grandes entreprises ne veulent pas que vous sachiez quelle est la loi qui est là. Ils veulent cacher tout derrière cette expression. Donc la première chose à faire quand quelqu'un utilise cette expression est de dire cette expression propriété intellectuelle cache les grandes différences entre plusieurs lois qui n'ont rien en commun, donc il s'agit de quelle loi? Et donc, dès que vous sachez de quelle loi il s'agit, vous pouvez commencer une conversation intelligente et cohérente. Bon, je suppose que j'ai dit assez. Et je peux rendre le micro à Jean-Pierre Berland. Ah, une petite chose que je voudrais mentionner. Si quelqu'un mentionne le système d'exploitation Linux, peut-être Je ne sais pas pourquoi, mais il se trompe, parce que le système d'exploitation s'appelle GNU. Et il s'utilise avec le noyau Linux. Donc c'est GNU et Linux.
Merci. Mais je crois qu'une bonne partie des mystifications qui sont en cours dans le domaine de la confiscation des biens communs tient en effet très largement à l'utilisation d'un vocabulaire qui est forgé par les multinationales pour nous tromper, pour nous empêcher de penser la réalité. Et il y a un très beau terme que malheureusement on continue à utiliser, c'est le terme « organisme génétiquement modifié ». Les organismes génétiquement modifiés, en fait, il faudrait les appeler, il y a différentes expressions qu'on peut utiliser, mais pour ceux qui sont cultivés, on pourrait appeler ça plutôt des chimères pesticides brevetés. Et on y reviendra sur la question du brevet très rapidement. L'expression OGM a été forgée par, à ma connaissance, les gens de Monsanto. Et je voudrais dire, pour compléter ce qu'a dit Gilles Lemaire tout à l'heure, que Monsanto a l'ambition de devenir le Microsoft du vivant, selon l'un de ses présidents. Donc les choses sont clairement dites. D'un côté, on va avoir le verrouillage de tout ce qui concerne les logiciels par Monsanto,
Francis Muguet a noté que dire verrouillage n'est pas le mot juste, parce que avoir des verrouilles dans l'appartement, c'est pas mauvais, mais il dit les menottes numériques. Et peut-être c'est la même chose.
Oui, exactement, oui, oui. Donc, menottes numériques passées par Microsoft, eh bien, Monsanto, avec le soutien également du gouvernement américain, quelles que soient les administrations qui, démocrates ou républicaines, Monsanto représente une espèce de fer de lance, en effet, dans ces menottes biologiques qu'on est en train de nous passer. Alors, le terme OGM a été inventé par Monsanto pour éviter le terme qui a été utilisé au départ des manipulations génétiques en 1973, première manipulation génétique, qui était le terme de chimère fonctionnelle ou de chimère génétique. À l'époque, il faut bien voir que fonction et gène signifient exactement la même chose. Et lorsque le projet d'industrialiser, au fond, ces chimères a commencé à se poser, a commencé à devenir une réalité, bien entendu, les gens de Monsanto ont commencé à se gratter la tête et se dire, d'un point de vue marketing, c'est évidemment pas formidable. Pensez bien que personne n'acceptera de manger volontiers des chimères fonctionnelles ou des chimères génétiques. Donc, ils ont inventé le terme organisme génétiquement modifié, qui a l'immense avantage de n'avoir strictement aucun sens précis. Puisque organisme génétiquement modifié, tous les individus dans cette salle, vous êtes tous des organismes génétiquement modifiés, puisque justement, le rôle de la nature, c'est de recréer constamment de la sexualité, c'est de recréer constamment de la diversité, de faire en sorte qu'aucun être vivant ne soit semblable à un autre être vivant, ne soit identique à un autre être vivant. Donc, le terme organisme génétiquement modifié vise à donc introduire une espèce de vision générale, si vous voulez, comme quoi, au fond, ces techniques nouvelles, consistant à faire des chimères génétiques, ne seraient que la continuation de ce que l'humanité a toujours fait. Et vous avez le discours rassurant qui est tenu par ces firmes, qui consiste à dire, mais nous ne faisons que poursuivre par des méthodes plus sûres, plus fiables, plus précises, plus tout ce que vous voudrez, plus techniques, plus scientifiques, plus rapides, ce que l'humanité a fait depuis les débuts de la domestication des plantes et des animaux. Vous voyez bien à quel point le terme OGM se prête en effet à ce genre de manipulation et à ce genre de discours. C'est vrai qu'à partir du moment où vous commencez à parler de chimères, évidemment, il devient évident que les premières chimères ont été faites en 1973 et que c'est quelque chose qui est absolument radicalement nouveau, qui nous introduit dans un monde nouveau dans la mesure où toutes les connaissances en matière de génétique ont été acquises au sein de l'espèce. Et là, on fait de la transgénèse, on est au-delà de l'espèce, ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme si les connaissances génétiques valables à l'intérieur de l'espèce pouvaient s'appliquer s'appliquer à la transgénèse. Donc ça nous introduit dans une véritable, ce qu'on peut appeler une boîte noire, quelque chose qui est radicalement nouveau et qui est plein de dangers, mais ça, je n'aurai pas le temps d'expliquer pourquoi ces nouvelles techniques sont pleines de dangers. Je voudrais en venir maintenant à la deuxième question, c'est la question donc du brevet. La question du brevet est une question véritablement lancinante dans notre société, en gros depuis la révolution industrielle. C'est-à-dire que lorsque les premiers sélectionneurs animaux d'abord et un siècle plus tard de plantes ont commencé à faire leur travail pour faire de l'argent, eh bien ils se sont heurtés immédiatement à cette propriété malheureuse des êtres vivants qui se reproduisent et se multiplient, je tremble en le disant, gratuitement. Gratuitement. Donc vous avez là un conflit immédiat entre cette gratuité de la vie, et puis je dirais même que pour certains êtres vivants, j'ai oublié de le dire, ils peuvent même faire cette reproduction gratuite avec un certain plaisir. Et là, c'est vraiment le comble de l'horreur dans une société marchande. Donc, le but de ces premiers sélectionneurs a été immédiatement de séparer la production de la reproduction. Donc de séparer ce que la vie confond. Parce que dans le domaine de la biologie, vous ne pouvez pas produire sans simultanément reproduire. Donc vous voyez bien le but mortifère qui est derrière tout ça, séparer la production de la reproduction, faire en sorte que la production reste entre les mains des agriculteurs, des paysans, mais la reproduction doit devenir le monopole de qui à l'heure actuelle? D'un groupe, d'un cartel de 6 firmes qui fabriquent les agrotoxiques, les pesticides. C'est-à-dire qu'on est dans une logique à l'heure actuelle où ce sont les fabricants de mort qui sont en train de déterminer l'avenir de la vie. C'est pas Monsanto, Syngenta, Dow Chemical, Pioneer, BASF, Bayer. Voilà, vous avez les 6. Les Français, c'est Syngenta maintenant. Ils ont été fusionnés, Ron Poulenc a été fusionné dans Syngenta. Pardon ? L'Imagrin, ils ne sont pas liés aux pesticides. Pas encore. Mais aux chimères. Ils essayent de faire des chimères, mais ils sont moins dangereux dans la mesure où ils ne sont pas adossés à une firme d'agrotoxique.
Mais ils ont le brevet aussi pour diffuser les productions de Monsanto.
Oui, ah ben, ils ont tous ça. Je veux dire, ce qui est tout à fait symbolique, ce qui est symbolique dans notre société, je pense, et qui est tout à fait révélateur, ça a été la technique, le brevet qui a été déposé en 1998, qui s'appelle « Contrôle de l'expression des gènes ». C'est un brevet qui est déposé par la recherche publique américaine et une firme privée. Et ce brevet, vous le connaissez sous un autre nom. C'est le nom de Terminator. Terminator est le plus grand triomphe de la biologie appliquée depuis 2 siècles, parce que ça fait depuis 2 siècles que cette biologie appliquée essaye de résoudre ce problème de la gratuité de la vie. Terminator est une technique qui permet de fabriquer des plantes, des semences, qui vont germer normalement, la plante va pousser normalement, mais au moment où le germe se forme, eh bien la plante a été manipulée, programmée, de façon à ce qu'elle aille tuer sa descendance, de faire en sorte que donc l'agriculteur va récolter un grain stérile. En ce sens-là, c'est le plus grand triomphe de la biologie appliquée à l'agriculture, puisque ça fait maintenant 2 siècles, ça avait commencé avec les animaux, ça s'est poursuivi avec les plantes, qu'on est exactement à la recherche de ce genre de technique permettant de séparer la production de la reproduction. Je crois qu'une fois... Oui ?
Excusez-moi, mais je pense que c'était déjà le cas avec les plantes hybrides, que quiconque a essayé de planter, de replanter des graines issues de plantes hybrides, ça n'a rien donné. Voilà, excusez-moi.
Je vous en prie, j'ai passé à peu près 15 ans à 20 ans à décortiquer ce qu'on appelle le maïs hybride, qui est considéré comme la plus grande invention de la génétique agricole au XXe siècle, aux États-Unis d'abord et en France, et qui est en quelque sorte la vache sacrée de la recherche agricole, et qui se trouve comme par hasard être aussi la vache à profit des semenciers. Donc, et c'est pour la même raison, ce qui est sacré, c'est l'argent. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, la seule raison pour laquelle on a fait des hybrides, c'était la première forme de Terminator, la première façon biologique de séparer la production de la reproduction. Maintenant, vous avez d'autres moyens de parvenir à ce même résultat, c'est évidemment le brevet. Et à cet égard, il y a eu une directive européenne, la directive 98-44, qui a fini par faire son chemin et être transposée en France en novembre 2004. C'est cette directive qui, à l'image de ce qui se fait aux États-Unis, prévoit en effet de breveter les plantes, de breveter les plantes. Alors vous avez toute une série d'autres moyens de parvenir au même résultat. Vous avez les moyens réglementaires. Et à cet égard, je dois dire que malheureusement, les socialistes ont fait preuve d'une très très grande imagination pour pouvoir successivement, disons, empêcher par différents moyens réglementaires les agriculteurs de semer le grain récolté. soit par des taxations, soit par des interdictions de nettoyer le grain, de telle façon que les agriculteurs soient forcés de semer un grain dégueulasse, plein de mauvaises herbes. Il y a toute une série de mesures discriminatoires qui sont prises dans ce sens. Et le dernier incident dans le même domaine, c'est les procès qui ont été faits systématiquement à l'association Cocopelli, qui, disons, diffuse des variétés anciennes, non seulement en France, mais dans le monde entier. Et donc qui a été condamné récemment par les tribunaux pour ne pas avoir appliqué les règles. Les règles, donc, ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'il y a à l'heure actuelle en France des fruits interdits. Il y a beaucoup de variétés de tomates. Je ne devrais pas utiliser le terme de variété de tomates, mais bon, beaucoup de tomates, par exemple, beaucoup de types de tomates ne sont pas inscrits sur un catalogue officiel. Ce qui veut dire que ni les semences, ni ces fruits ne peuvent être offerts à la vente. Vous avez à la rigueur la possibilité de les cultiver pour vous et de les consommer vous-même, mais si vous en donnez à vos voisins, vous commencez à être en infraction. Voilà où on en est. Je veux dire, quand Richard Stallman parle de la question des libertés, je veux dire, on est face là à une vraiment confiscation d'une liberté essentielle. Alors pour terminer, je voudrais prendre... Je voudrais vous dire à quel point on peut être en colère devant l'imposture incroyable de toute cette affaire. Parce que tout ça, c'est fait au nom du libéralisme. Pardon. Oui. Ah, tout ceci est tout ce qui est toutes ces mesures sont prises au nom du libéralisme, au nom de l'intérêt public. Et je voudrais simplement vous lire un texte d'un très grand libéral, je dévoilerai son nom, qui avait écrit une pétition en 1845, qu'il avait intitulée « La pétition des fabricants de chandelles, bougies, lampes, chandeliers, réverbères, mouchettes, éteignoirs et des producteurs de suif, huile, résine, alcool et généralement tout ce qui concerne l'éclairage ». Donc voici la pétition, le texte de la pétition. Nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger placé, à ce qu'il nous paraît, dans des conditions tellement supérieures aux nôtres pour la production de la lumière qu'il en inonde notre marché national à un prix fabuleusement réduit. Car aussitôt qu'il se montre, notre vente cesse, tous les consommateurs s'adressent à lui et une branche d'industrie française dont les ramifications sont innombrables est à coup frappée de la stagnation. Ce rival n'est autre que le soleil et il nous fait une concurrence acharnée. Nous demandons qu'il vous plaise de faire une loi qui ordonne la fermeture de toutes fenêtres, lucarnes, abat-jour, contrevent, volets, rideaux, vassistas, œil de bœuf, store, en un mot de toutes ouvertures, trous, fentes et fissures par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons au préjudice des belles industries dont nous flattons d'avoir doté le pays. Et si vous fermez autant que possible tout accès à la lumière naturelle, si vous créez ainsi le besoin de lumière artificielle, quelle est en France l'industrie qui, de proche en proche, ne sera pas encouragée? Ben voyez-vous, bien, vous applaudissez là, vous applaudissez là Frédéric Bastiat, qui était un journaliste hyper libéral, qui bataillait en 1845 contre le protectionnisme. Seulement, voilà, 150 ans plus tard, les imposteurs néolibéraux du complexe génético-industriel dénonce le privilège inexistant, bien sûr, de l'agriculteur qui consiste à semer le grain récolté, qui est la pratique fondatrice de l'agriculture, pour se faire conférer, au nom de leur philanthropie verte, un privilège bien réel sur la faculté des plantes et des animaux de se reproduire et de se multiplier.
Je voudrais poser une question à Richard Stallman et Jean-Pierre Berland. Si j'ai bien compris, la convergence première qu'on peut trouver entre nous, elle est d'abord de se méfier du vocabulaire qui nous trompe, de ne pas dire propriété intellectuelle. Là-dessus, vous êtes d'accord tous les deux, alors que vous êtes dans deux champs différents. Et là, vous vous rejoignez totalement. Je l'ai vu par mail, vous pensez de la même manière. Vous êtes dans deux champs différents. Et ceux qui ont pu suivre vos mails auraient pu suivre une discussion d'érudits qui range heureux les personnes qui ont pu vous lire. Cela étant dit, donc, le vocabulaire, ne pas dire OGM, mais chimère, ne pas dire Linux, mais GNU Linux, Cela étant dit, une fois qu'on se met d'accord que notre première synthèse doit être de poser des mots exacts et que chacune des deux communautés doit parler exactement avec l'autre communauté, quelle autre convergence pouvons-nous construire ensemble ?
Je me suis levé parce que je n'entendais pas bien. Je suis dordoré. Il y a une rassemblance entre les deux problèmes, les problèmes de l'interdiction de partager les semences et l'interdiction de partager les programmes dans deux champs de la vie très très différents. Il y a la possibilité de copier des choses utiles. C'est vrai que les plantes ne se copient exactement dans la reproduction, mais c'est plus ou moins copié. Et il y a la tradition de pratiquer la copie dans l'agriculture et aussi dans les ordinateurs. Et quand il y a la possibilité de copier des choses, quand la technologie est capable de copier quelque chose d'utile, donc ôter aux citoyens le droit de pratiquer la copie est injuste. Dans les deux champs, les entreprises qui le font emploient des lois différentes. Mais l'injustice est pareille.
Je voudrais simplement dire la deuxième convergence, à mon avis, c'est sur la question de privation de nos libertés. C'est manifestement dans ce domaine, je vous ai parlé d'un cartel de transnational, donc là aussi le vocabulaire est essentiel. Les fabricants de pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, bactéricides, gamétocides, donc des fabricants des produits en cides qui se baptisent eux-mêmes les industriels des sciences de la vie. Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'imposture à laquelle nous sommes. Mais c'est vrai que les journalistes parlent des industriels des sciences de la vie pour désigner ces gens-là, manifestement c'est une erreur complète qu'ils commettent, c'est une tromperie. Quand on parle de privilège de l'agriculteur pour désigner le fait de semer le grain récolté, c'est manifestement pas un privilège, ça ne l'a jamais été. C'est la dénonciation d'un privilège inexistant pour s'en faire créer un privilège bien réel, et ce au nom du libéralisme. Donc on est face à un assaut sur l'ensemble, de nos libertés à l'heure actuelle. Et je crois que c'est contre ça qu'il faut réussir, et qu'il faut s'élever, préserver ces libertés, parce que le système, de plus en plus, est en train de nous enfermer, de nous interdire, disons, de faire des choses que nous avons toujours eu la possibilité de faire.